RFI, merci d'être avec nous. Il est 14h, temps universel, 16h ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Un signe positif, mais insuffisant. Réaction de Kiev et ses alliés après la contre-proposition de Vladimir Poutine. Le président russe dit souhaiter des négociations directes avec l'Ukraine dès jeudi en Turquie. Plus jamais la guerre, appel de Léon XIV pour sa première prière dominicale place Saint-Pierre. Le nouveau pape a interpellé les grands de ce monde, je cite. Le soulagement prudent des populations en Inde et au Pakistan. Le cessez-le-feu annoncé hier est globalement respecté. Et ce dimanche. On sera aussi en Argentine où une série Netflix relance la recherche de bébés volés pendant la dictature. Et puis on ira tester un casque audio pour personnes malentendantes, un assistant d'écoute lauréat du concours Lépine en France qui récompense chaque année les meilleures inventions. La Turquie, d'accord pour accueillir des négociations directes entre Kiev et Moscou. C'est la proposition de Vladimir Poutine. Le président russe affirme que ces discussions pourraient débuter jeudi, mais il n'a pas évoqué l'exigence d'un cessez-le-feu à partir de demain, demandé par l'Ukraine et ses alliés, trêve sans condition et sous peine de sanctions. Le président ukrainien s'est dit prêt, lui, à des pourparlers directs, mais seulement si la Russie s'engage à un cessez-le-feu. Et à Kiev, les habitants restent très prudents, pas très enthousiastes après ces dernières déclarations russes. Emmanuel Chaz.
C'est un dimanche comme un autre ici à Kiev. Il est ponctué d'alertes aériennes annonçant le danger d'une frappe russe éventuelle. Cette nuit, des explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne alors que la Russie lançait une centaine de drones contre l'ensemble du pays. Difficile donc de croire à une paix prochaine, mais Igor, un fonctionnaire d'une cinquantaine d'années, voit la proposition de pourparlers directs avancée par Vladimir Poutine comme une bonne nouvelle.
Cette guerre insignifiante aurait dû être stoppée il y a longtemps, en 1922. Elle aurait pu l'être. Et la perte de tant de personnes, des amis chers, je ne pense pas que c'est une bonne chose.
Tetiana, une interprète à Kiev, partie se réfugier à l'étranger au début de l'invasion et revenue depuis 2 ans, voit les choses différemment.
Nous avons beaucoup de méfiance de ce côté-là. Toutes ces propositions suscitent beaucoup de doutes et je n'ai aucune confiance, aucune foi que tout arrive comme ils le disent.
Tetiana traduit là le sentiment d'une majorité d'Ukrainiens habitués à ce que la Russie viole les cessez-le-feu et traités pourtant signés et ou annoncés par Moscou. Quelques heures après les déclarations de Vladimir Poutine, le bras de fer continue donc sur le terrain avec les combats et sur le plan diplomatique avec la proposition du bloc occidental d'un cessez-le-feu inconditionnel que Moscou continue de refuser. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Le conflit en Ukraine évoqué par le nouveau pape qui a appelé à une paix juste et durable lors de sa première prière hebdomadaire tout à l'heure au balcon de la basilique Saint-Pierre. Léon XIV a appelé les grands de ce monde à arrêter la guerre en Ukraine donc, mais aussi dans la bande de Gaza. Et il a également salué le cessez-le-feu annoncé entre l'Inde et le Pakistan. Cette trêve, elle tient globalement aujourd'hui malgré des incidents. La nuit dernière à la frontière, les deux pays se sont accusés mutuellement. Pour les populations, cet apaisement est un soulagement en espérant que ça dure. Reportage Léa Ojal.
Le turban sur la tête, symbole de sa religion, ce jeune homme de confession sikh ne redoute pas une escalade de tensions entre les deux puissances nucléaires. Pour Kashish, l'Inde et le Pakistan ont plus à perdre qu'à gagner.
En ce qui concerne un véritable conflit armé, les deux États savent très bien quelles en seraient les conséquences, notamment sur le plan économique. Une guerre ne tue pas seulement des gens, elle a aussi des répercussions beaucoup plus larges sur l'économie et sur le statut international des pays concernés.
Pour d'autres, l'enlisement du conflit entre les deux pays est synonyme d'angoisse. Jacques Viti est une jeune femme de 20 ans.
Je suis vraiment effrayée par cet état de guerre. Je suis encore très jeune, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie avant que quelque chose ne m'arrive. Donc c'est vraiment la seule pensée qui me vient à l'esprit et je pense que les deux nations pourraient résoudre cela en discutant plutôt que de se lancer des missiles les uns sur les autres.
Dans ce climat tendu, New Delhi anticipe sirène, évacuation. Il s'agit de l'un des plus grands exercices de protection civile jamais menés. Léa Ojal, New Delhi,
RFI.
La fin du nouveau cycle de discussions lancé aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, le quatrième du genre à Oman pour parler sur le dossier nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne avait affirmé, avant même le début de la réunion, que le droit de Téhéran à l'enrichissement d'uranium était non négociable. À la sortie de la session il y a quelques minutes, l'Iran a parlé de négociations difficiles. Les États-Unis, eux, se disent encouragés par les résultats. Pendant ce temps-là, en Suisse, les discussions de haut niveau ont repris entre Chine et États-Unis sur les droits de douane. Deuxième jour donc de réunion pour tenter de trouver un compromis sur les taxes imposées de part et d'autre. Ça se passe à huis clos, rien ne filtre, mais les États-Unis se disent déjà optimistes. En Argentine, une série Netflix à succès relance la recherche des bébés volés pendant la dictature. Depuis le lancement de cette série, L'Éternaute, le 30 avril, le nombre de personnes qui contactent les grands-mères de la place de Mai explose. Cette série est inspirée d'une BD de science-fiction, une histoire apocalyptique d'invasion extraterrestre à Buenos Aires. Et elle remet donc en lumière les milliers de disparus entre 1976 et 1983. Théo Conscience.
Et si l'un des millions d'Argentins à avoir regardé la série L'Éternaute était, sans le savoir, le petit-fils ou la petite-fille de l'auteur de cette BD culte des années 50 adaptée par Netflix. Hector Westerheld, militant de gauche, a été séquestré et assassiné par la dictature civilo-militaire argentine à la fin des années 70, tout comme ses quatre filles. Deux d'entre elles, Diana et Marina, étaient enceintes au moment de leur enlèvement. Leurs enfants font partie des quelques 500 bébés volés pendant la dictature. Le jour de la sortie de la série adaptée de l'œuvre de Westerheld, les grands-mères de la place de Mai ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Tu regardes L'Éternaute, tu es né entre novembre 1976 et janvier 1978 et tu as un doute sur ton identité, prends contact avec nous. Et le succès de la série, qui caracole en tête des contenus non anglophones les plus visionnés sur Netflix, a fait le reste. Entre le 30 avril et le 7 mai, plus de 100 personnes ont contacté les grands-mères de la place de Mai, 6 fois plus que l'an dernier à la même époque. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Des élections en cours en Albanie, des législatives, scrutin test pour l'avenir européen de ce petit pays sur la côte adriatique. D'un côté, le premier ministre socialiste Edi Rama espère rempiler pour un quatrième mandat. De l'autre, l'ancien dirigeant de droite à la tête d'une coalition d'opposition, Sali Berisha, a bien l'intention de revenir au pouvoir. Pour la première fois, la diaspora participe au vote. Les bureaux doivent fermer à 17h, temps universel. Entre Paris et Alger, cela reste totalement gelé, déplore le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Les relations sont bloquées depuis les expulsions mutuelles de fonctionnaires décidées par les autorités des deux pays le mois dernier. Le stylo à billes, le presse-purée, le distributeur automatique de pain, toutes ces inventions sont nées au concours L'Épine en France, ce concours historique qui met en valeur des innovations plus ou moins utiles, plus ou moins créatives. Et cette année, c'est un casque audio, pas comme les autres, qui l'a emporté. Un casque destiné aux malentendants, développé par l'entreprise Spokeo. Reportage à la Foire de Paris, Marius Roland.
Impeccable. Ah ouais, c'est bien, hein. Ça va très très bien.
Nadine a souvent des problèmes d'audition, mais avec ce casque, tout est limpide. À peine essayé, la retraitée est séduite par l'innovation.
La perception de la voix, elle est très nette. Elle est très claire, très nette, et je vous entendais parfaitement, quoi. Très clair, très auditif, c'est vraiment impeccable.
Alors, comment ça fonctionne? Le casque est connecté à un micro-cravate porté par son interlocuteur.
Le micro va venir capter uniquement la voix de la personne qui parle.
Raphaël Zakin est co-inventeur du casque Spokeo.
La voix, elle va être après traitée, amplifiée, et c'est le casque qui va la diffuser par biconduction sonore, c'est-à-dire conduction aérienne et en conduction osseuse. En faisant vibrer l'os, ça permet de pouvoir stimuler l'oreille.
Une prouesse technologique et une ambition des trois créateurs. Ce n'est plus aux malentendants de se débrouiller, c'est à ses proches de s'équiper pour renouer le lien, éviter l'exclusion, de quoi convaincre même les ados, comme Alexandre.
Parce que mes grands-parents ne s'entendent pas très bien, alors avec ça on pourra mieux discuter, etc. Ce sera une meilleure relation.
À un prix de 500 euros, la technologie fonctionne aussi en Bluetooth pour passer des appels ou regarder la télévision.
Marius Roland à la Foire de Paris qui fermera ses portes ce dimanche soir. Et puis dans un petit peu plus de 5 minutes maintenant, le coup d'envoi du Classico en Espagne. Quatrième de la saison entre le FC Barcelone, leader de la Liga, et son dauphin, le Real Madrid. Coup d'envoi donc 16h15, heure de Madrid pour l'heure. On retrouve Hortense Vol pour BPM, les bonnes pulsations du monde. Bonne émission.